Yeah. Bien. Nous allons revenir à notre thème de l'enfant dernière, à savoir la nécessité d'entrer dans notre destinée, dans le but de pouvoir régner dans la vie. Car comme nous l'avons vu et comme je le rappellerai encore ce matin, nous sommes dans la plupart des cas des hommes et des femmes qui subissent les événements, qui subissent la vie, qui subissent toutes sortes de circonstances, voyez-vous. Et cela, mes amis, est contraire à la parole de Dieu, nous le verrons. Car nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, nous dit la parole, eh bien, nous sommes appelés à régner dans la vie par Jésus-Christ seul. La précision est détail. Mais nous cherchons à contrôler les événements par nous-mêmes. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une circonstance adverse, eh bien voilà, nous voyons tout de suite le diable. J'aimerais vous dire une chose, et c'est une image qui m'avait beaucoup frappé lorsque le pasteur Verneau l'avait utilisée, parlant du diable, montrant que le diable ne peut pas aller au-delà des limites que le Seigneur a fixées. Il a parlé du diable comme d'un chien attaché à une laisse. Le chien ne peut pas aller au-delà, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Que Dieu soit béni. Nous allons revenir à notre texte de la fois dernière. Je peux vous assurer qu'à chaque fois que je médite ce texte, à chaque fois de nouvelles vérités en surgissent, et c'est formidable. Nous sommes dans le premier livre de Samuel au chapitre 9. Nous allons lire le verset 27 et puis ensuite nous poursuivrons notre lecture au chapitre 10, les 10 premiers versets. Nous lisons. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Celui-ci passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Chapitre 10, premier verset. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur ou le naguide de son héritage ou de son patrimoine. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin à Tseltsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne des Tabor, où tu seras abordé par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et te donneront deux pains que tu prendras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, aux collines de Dieu, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, en train de prophétiser. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque tous ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Alors à mon tour, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te fasse connaître ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur ou lui changea un autre cœur et tous ces signes, tous ces événements se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là à Gibéa et voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et Saül prophétisa au milieu d'eux. Amen. Gloire au Seigneur. Tant à dire, mes amis, sur le Dieu de la Bible qui se révèle comme étant celui qui a prévu des choses à l'avance. Des choses, mes amis, qu'il a prévues d'avance pour pouvoir contribuer à nous faire entrer dans sa destinée pour pouvoir nous amener à régner dans la vie. Nous aspirons tous à une vie de victoire. Nous aspirons tous à une vie, mes amis, qui nous amène à aller de gloire en gloire, à demeurer dans la volonté de Dieu. Et cette aspiration est non seulement légitime, mais elle est aussi conforme à la volonté de Dieu. Car comme nous l'avons vu la fois dernière, ce que nous qui sommes en Christ, nous avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, et par conséquent, nous sommes donc destinés à régner dans la vie par Jésus-Christ seul. La précision est détail, et ça vaut la peine d'y revenir. Il est vrai qu'un jour nous quitterons ce corps de chair, il est vrai qu'un jour nous quitterons cette terre à laquelle nous sommes tant attachés, à cette république qui nous a fait naître, pour certains, à cette république vis-à-vis de laquelle nous avons eu des responsabilités, quelle que soit leur nature, un jour nous quitterons, nous laisserons tout cela, et nous en irons auprès du Seigneur, et nous passerons toute l'éternité dans la gloire et dans la félicité. En d'autres mots, nous régnerons avec lui. Ça, c'est ce qui va arriver lorsque nous aurons quitté cette terre. Mais en attendant, la Bible est formelle, la Bible est catégorique. Tous ceux qui sont en Christ sont donc appelés à régner dans la vie par le seul Jésus-Christ. Oh, alléluia! Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, mes amis, que nous ne devons pas être de ceux qui subissent la vie, de ceux qui subissent les circonstances, de ceux qui subissent les événements. Non, celui qui est en nous est tout puissant. Celui qui est en nous est plus fort que toutes les circonstances qui pourraient advenir, qui pourraient surgir dans notre vie. Et tant que nous sommes dans sa main, tant que nous restons attachés à lui, tout ce qui nous arrivera, mes amis, aura été prévu, aura été organisé, aura été conduit par sa main souveraine dans le but de nous faire entrer dans notre destinée. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes appelés à régner, mais ce règne ne devient une réalité quotidienne pour nous que lorsque nous entrons dans notre destinée. Oui, nous l'avons vu la fois dernière, Dieu a un plan de vie bien spécifique pour chacun d'entre nous. Il a tracé un chemin pour chacun de nous. Et c'est en prenant ce chemin, en prenant cette voie qu'il a tracée pour chacun de nous, que nous finirons par entrer dans notre destinée, étant entrés dans notre destinée, demeurant dans notre destinée, marchant dans la direction que lui a tracée, a fixée pour nous, alors nous régnerons, quelles que soient les circonstances. Et le règne de Dieu en nous n'a rien à voir avec ce règne autoritariste, despotique de l'homme. Pas du tout. Quand nous parlons de régner, nous parlons de cette capacité à prévaloir, à prendre avantage sur n'importe quelle circonstance. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 10, car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus, écoutez bien, pour des œuvres bonnes, pour des œuvres magnifiques, pour des œuvres glorieuses que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tout a été écrit bien avant que nous venions sur cette terre. Ça veut dire que même le choix que votre père avait fait par rapport à votre mère pour qu'ensemble ils puissent avoir un enfant que vous êtes, tout cela n'a pas été le produit du hasard. Même si vos parents ne connaissaient pas Dieu. Il est celui, mes amis, qui est assis sur son trône et qui contrôle tout. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à entrer à notre destinée. Et la fois dernière, c'est-à-dire le dimanche dernier, j'ai essayé de définir ce que c'est la destinée à la lumière de certaines déclarations de la Bible. Comme vous le savez, le monde a sa définition. Dans le monde, qu'est-ce que c'est une destinée? Eh bien, pour le monde, il y a d'abord une force impersonnelle qui réglerait de manière inéluctable le déroulement des événements, qui régirait, qui régit encore toutes les lois de l'univers, les lois sur lesquelles repose l'univers. Une force impersonnelle. Nous trouvons cette croyance dans l'astrologie. Les gens pensent que la position qu'occupent les astres, que ce soit dans notre système solaire, que ce soit dans d'autres constellations, du moins dans notre galaxie, eh bien tout cela aurait une influence sur notre vie, nous donnerait soit de la chance, c'est-à-dire, eh bien, arrangerait les circonstances pour que nous puissions avoir la chance, ou alors une force personnelle mystique, comme dans certaines croyances ésotériques, où on pense qu'il y a des forces mystiques dans l'univers qui contrôlent toutes choses. Pourquoi mystique? Pourquoi personnel? C'est-à-dire, c'est des intelligences qui créent toutes sortes d'événements, etc. Et que nous serions dépendants de leur bon vouloir, etc. Et à la lumière de la Bible, tout cela est faux et archi-faux. La Bible nous révèle le Dieu de la Bible, le Dieu de Jacob, comme étant non seulement celui qui a créé, non seulement celui qui a établi les lois sur lesquelles repose notre univers, non seulement celui qui a créé l'univers visible, mais aussi l'invisible, mais la Bible nous révèle le Dieu de Jacob, le Dieu qu'a rencontré Abraham, comme étant celui qui change le temps et les circonstances, comme celui qui dirige toutes choses. Ça veut dire que Dieu n'attend pas que nous arrivions aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer aujourd'hui, avant même que nous arrivions en ce dimanche, 20 juin 2021, il savait à la perfection que nous serions ici en train de louer et d'adorer le Seigneur. Dieu n'est pas surpris, mes amis. Comme nous l'avons lu dans Daniel 2, il est celui qui établit le roi, mais aussi qui renverse le roi. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, nous. Mais au-delà, par-delà les puissances politiques, par-delà les puissances financières, militaires, par-delà toutes ces puissances spirituelles, il y a la souveraineté de celui qui est venu un jour sur cette terre pour donner sa vie pour chacun de nous. Celui le grand architecte de l'histoire. Il y a quelques années d'ici, nous sommes en France. Avant les élections, un monsieur était donné vainqueur de cette élection présidentielle. Il avait toutes les chances. Tout le monde en parlait. Pour beaucoup d'observateurs, l'élection était déjà pliée. C'était lui qui allait remporter, un homme intelligent, qui a eu assumé plusieurs responsabilités, que ce soit au niveau de son pays, professeur d'université, très apprécié dans le domaine économique, etc., et puis des responsabilités sur le plan international, tout était plié. Tout son parti savait que lui, en se présentant, remporterait la victoire. Mais personne n'était loin de s'imaginer qu'une petite circonstance de rien du tout allait tout chambouler. Et celui sur qui personne n'avait misé, a fini par devenir président de la République. Je parle de François Hollande. Il est arrivé. C'était pas lui le favori. Et puis ensuite, avec lui, d'autres caciques de la politique française, quand il arrive à la fin de son mandat, élection et tout ça, il était loin de s'imaginer que le jeune homme technocrate, très intelligent, qui avait évolué dans les milieux bancaires, qu'il avait pris simplement à cause de son intelligence, sans aucune expérience politique, appartenant à aucun parti. Quand l'élection arrive,
C'est lui le jeune qui passe. Qui pouvait s'imaginer? En attendant, il y avait un autre hein, qui était présenté dans le média comme, et puis hop, quelques casseroles judiciaires, c'était fini. C'était fini, mes amis. Vous voyez, il y a quelqu'un qui contrôle tout. Alléluia. Dieu a préparé des choses, des œuvres merveilleuses, des œuvres glorieuses, pour que nous puissions les accomplir, littéralement, pour que nous puissions y marcher. Verbe marcher, ça veut dire qu'il a tracé une voie, voyez-vous, et en Jésus-Christ, il a prévu des choses, mes amis. Donc cela veut dire que sur cette voie, nous aurons à rencontrer des choses défavorables, des choses favorables. Nous aurons affaire à des circonstances difficiles, joyeuses ou autres, peu importe. Mais dès lors que nous sommes en Christ, dès lors que nous sommes sur cette voie, tout ce qui nous arrivera n'aura d'autre objectif ultime que de nous faire entrer dans notre destinée. Oh, alléluia. Certains ont quitté leur province d'origine pour venir faire des études universitaires ici. Il y en a qui les ont terminées brillamment. Il y en a d'autres qui se sont dit, mais Seigneur, j'aurais aimé rester dans ma province. Si j'avais fait les études universitaires dans ma province, dans l'université de ma ville, je n'aurais pas eu tous ces problèmes qui m'ont amené à ne pas aller au terme de ces études. Mais aujourd'hui, Seigneur, regarde. Eh oui, il a fallu que tu viennes ici pour qu'un jour tu les rencontres. Oh, alléluia. Cet échec, ce qui te paraît comme un échec, à cause des circonstances qui ne dépendaient pas de toi, puisque tant ici, les parents à l'équateur, au fin fond de l'équateur, à un certain moment ne pouvaient plus te faire parvenir de l'argent. Ça a été difficile et tout cela. Mais la chose la plus importante, c'est que dans ces circonstances difficiles, tu as fini par rencontrer Jésus. Alors loue-le pour cela. Pas de hasard. Revenons à l'histoire de Saül, l'histoire que nous avons lue, et qui reste, mes amis, une illustration de tant de choses, de tant de vérités en rapport avec le Dieu qui reste et demeure le grand architecte de l'histoire. Voyez-vous, comment Saül est-il entré dans sa destinée pour, in fine, régner non seulement sur Israël, mais régner également sur ses adversaires, tels que les Ammonites, tels que les Philistins. Il a eu à les écraser, il a eu à marcher sur eux, il a eu le pouvoir, c'est ça régner, c'est exercer son pouvoir. Voyez-vous, comment est-il entré dans sa destinée? Eh bien, ce texte est très clair. Et ce qui m'interpelle toujours à chaque fois que je lis ou médite ce texte, ce passage, cette partie de l'histoire de Saül, eh bien, ce qui m'interpelle le plus, ce sont les détails. Les détails que le prophète donne à Saül. Des choses qui, jusque-là, étaient encore des choses appartenant au futur. Saül ne les avait pas encore expérimentées. Et la Bible donne les détails. Et les choses vont se passer comme la parole de Dieu avait été donnée à Saül. Revenons à cette histoire pour mieux comprendre un peu comment le Seigneur, le Dieu que nous servons, reste souverain dans tout ce qu'il fait. Eh bien, tout commence par une perte. Une perte, eh oui. Attendez, il y a de la buée sur mes verres. Voilà, je disais, tout commence avec une perte, celle des ânes de Kish, le père de Saül. Ceci a dû être, mes amis, vécu comme une tragédie, comme un drame. Comment ça? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque biblique, les ânes étaient des animaux à tout faire, des véritables tout-terrains. Voyez-vous, les ânes étaient là, employés pour le transport des personnes, mais aussi le transport des marchandises, mais aussi les ânes servaient à des travaux agricoles. Donc cet animal était indispensable. Les ânes donc étaient indispensables. En possédait donc beaucoup, comme le père de Saül était signe de richesse. N'est-ce pas? Et cela veut dire donc que c'était un malheur d'en perdre un de ces précieux animaux. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà comment l'histoire commence avec Saul, avec Saül. La perte. Et son père qui demande à son fils, prends un des serviteurs. C'est important. Un des serviteurs. Il n'a pas pointé un serviteur particulier. Il laisse le choix à son fils. Prends un des serviteurs et allez à la recherche des ânes. Mais seulement, ni lui Saül, ni son père Kish, ne pouvaient savoir que derrière cette circonstance difficile, derrière cet événement tragique, eh bien, il y avait la main invisible du Dieu d'Israël qui avait tout prévu pour que son fils Saül, qui était un vrai barour, comme on dit en hébreu, un homme vaillant, un homme d'élite, beau, etc., pour que son fils puisse devenir roi d'Israël. Entre le moment où les années se sont perdues et le moment, à la fin du chapitre 10, où Saül est intronisé, où il est investi comme roi d'Israël, eh bien, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances. Eh bien, en lisant calmement tout cela, nous voyons que toutes ces circonstances ne sont pas arrivées de manière fortuite, de manière imprévue. Tout a été prévu par Dieu, oh alléluia. Même la perte, car il a fallu qu'il y ait la perte pour que Saül se lève, quitte sa maison, erre un peu partout dans les montagnes d'Éphraïm et dans tout le territoire de Benjamin, pour finalement arriver à Rama, où vivait le prophète de Dieu Samuel, et puis ensuite entrer dans sa destinée. Vous voyez, mes amis, comment Dieu a conduit les choses, oh alléluia. Derrière cet événement, c'est-à-dire la perte des ânes, et d'autres événements par la suite, que nous avons lus, eh bien, il y avait une main visible souveraine, qui contrôlait tout, qui avait prévu, qui avait organisé, qui avait suscité tout cela pour permettre à Saül d'entrer dans sa destinée. Tous les protagonistes de cette histoire, tous alors, en dehors de Samuel, à qui Dieu avait parlé, eh bien, tous ne pouvaient pas s'imaginer que la décision qu'ils avaient prise ce jour-là, de pouvoir prendre la route, d'être de passer par tel endroit, que tout cela, mes amis, était dirigé par une main toute puissante pour amener, pour faire concourir tous ces événements, eh bien, au bonheur de qui? De Saül. Pas de hasard avec Dieu. Le travail que tu as perdu, Dieu sait ce qu'il fait. Le moment par lequel tu passes, Dieu sait pourquoi. Ce sont des circonstances qui te font pleurer, des événements qui te paraissent dramatiques, insupportables. Oui, ils n'arrivent pas au hasard, mon frère. Comme pour Saül, il ne pouvait pas s'imaginer. Pour lui, son papa lui demandait simplement d'aller chercher les ânes. C'est tout. Il a obéi, n'est-ce pas? Pouvait-il s'imaginer que cette obéissance était conforme au plan de Dieu pour sa vie? Le serviteur, et je reviendrai là-dessus, pouvait-il s'imaginer que le fils de son patron, peut-être avec qui il avait des bons rapports, peut-être avec qui il jouait au foot et tout ça, en l'accompagnant dans cette mission qui n'avait rien à voir de noble, de royal, rien du tout, aller chercher les ânesses, pouvait-il s'imaginer qu'il se mettait aux côtés, qu'il entrait dans un vaste plan de Dieu? Pouvait-il s'imaginer que l'homme qui l'accompagnait, avec qui ils ont passé la nuit, pendant 3 jours, à la recherche des ânesses, deviendrait quelque temps plus tard le roi d'Israël? Oh, alléluia, ça vaut la peine d'acclamer. Dieu est bon. Kish perd ses enfants, et plutôt ses ânesses, excusez-moi. Il demande à son fils de prendre un des serviteurs pour aller rechercher les ânes. Donc, il ne choisit pas un, il n'impose pas un à son fils, pas du tout. Il dit, mon fils choisit. Qu'est-ce qui a poussé Saül à choisir ce serviteur-là et pas quelqu'un d'autre? Le mystère, la providence, il y a deux choses qui nous échappent. Voilà. Il y a des gens qui un jour se sont mariés comme ça, et puis de leur mariage, un enfant, 2, 3, 8 sont nés, mais ni le papa, ni la maman ne pouvaient s'imaginer qu'un de ces enfants deviendra un grand homme dans ce pays. Un de ses enfants serait un homme connu dans le monde entier. Aujourd'hui, on voit des grands joueurs, c'est la période de l'euro, des grands joueurs, notamment de joueurs d'origine congolaise, n'est-ce pas? Qui pouvait s'imaginer que ses parents congolais, dont certains sont partis en fuyant la dictature, ils sont partis à la recherche d'une vie aisée. Il y en a qui ont erré, qui ont fait des petits boulots, ils se sont retrouvés dans des logements sociaux, et puis les enfants sont venus. Aujourd'hui, certains de ces enfants sont connus dans le monde entier. Le nom de leurs parents, alors que les mêmes parents, quand ils étaient à Kimbanseke, quand ils étaient à Njili, oui ou non? Alors que le papa, quand il était encore étudiant à Lubumbashi et qu'il était parti en Belgique, personne ne le connaissait. Aujourd'hui, grâce à leurs enfants, leur nom s'affiche sur tous les écrans du monde entier. Pouvait-il s'imaginer que là où ils partaient, quelque part, ils entraient aussi dans le plan de Dieu pour leur bénédiction? Dieu contrôle tout. Ils partent dans les montagnes d'Éphraïm. Ils errent dans tout le territoire de Benjamin en vain. Après quelques jours de recherche, troisième jour, Saül dit à son serviteur, écoute, nous avons été partout, dans toutes les montagnes, à travers tout le territoire de Benjamin, nous n'avons rien trouvé, alors viens, retournons. Écoutez bien. Retournons, de peur que mon père cesse de penser aux ânesses et s'inquiète de nous. Ça, c'est Saül. Mais son serviteur lui dit, écoute, ici où nous sommes, pas loin d'ici, il y a une ville, c'est Rama, et dans cette ville vit un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il dit finit par arriver. Oh, alléluia. Oh, je crois que peut-être plus tard, Saül a eu à rendre grâce à Dieu pour avoir fait le choix sur ces serviteurs-là. Regardez avec qui sortir dans la vie. Regardez avec qui partir. Il aurait pu lui dire, ok, de toute façon, laissons-le, peut-être que les loups les ont mangés. Mais ce serviteur va lui donner un bon conseil. Il va dire, allons voir le serviteur. Sur ce, Saül réagit, il dit, oui, mais allez voir le serviteur. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus de pain, nous n'avons plus de présents. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas aller voir le prophète sans lui apporter un présent quelconque. Voyez. Et encore le serviteur dit, non, ce n'est pas un problème. J'ai un quart de cycle d'argent, donc à peu près 2,5 grammes. C'est rien du tout, hein, d'argent, 2 grammes. Nous lui apporterons cela. Ce n'était pas le cycle, le quart de cycle de Saül, mais c'était à son serviteur. Il insiste. Mes amis, entourez-vous de gens qui peuvent vous aider à entrer dans votre destinée. Pas de gens qui vous... Quand ils sont avec vous, c'est de dire, tiens, allons boire un verre là-bas. Allons voir, dans ce quartier, il y a beaucoup de belles filles, de belles femmes et tout ça. Sortez avec des gens qui vont vous conseiller. Car, en lui disant, allons voir le prophète, 1 Samuel 9,9 dit ceci, autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait quoi? Disait ceci, venez, allons chez le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc on ne disait pas concrètement, allons consulter Dieu, allons chercher l'aide de Dieu, on disait simplement, venez, allons chez le voyant, venez, allons chez le prophète. Donc en suggérant Saül d'aller voir le prophète, il lui suggérait d'aller consulter Dieu. Tournons-nous vers Dieu. Nous avons erré partout. Nous n'avons rien trouvé. Alors ça vaut la peine de persévérer encore. Certes, nous n'avons plus de pain à lui donner. Certes, nous n'avons plus de présents conséquents à lui donner. Cependant, j'ai un quart de cycle. Eh bien, avec ça, allons-y. C'est ainsi qu'ils vont partir. Alléluia. Mes amis, choisissez. Et ce serviteur, sans le savoir, va contribuer à la réussite de qui? De Saül, hein? Réussite dans le sens où il va permettre à Saül d'entrer dans sa destinée. Parce que quand ils vont arriver chez le prophète, avant même, un jour avant qu'ils arrivent, Dieu avait déjà parlé au prophète en lui disant, « Eh bien, demain, je t'enverrai un homme que j'ai choisi, et celui qui deviendra le conducteur sur Israël. » Voyez, l'entourage est important. Le président John Fitzgerald Kennedy a dit ceci. L'art de la réussite est de savoir s'entourer des meilleurs. Voilà. Des gens qui vous donnent de bons conseils. Même des gens qui sont plus instruits que vous. Des gens qui sont meilleurs que vous, qui connaissent plus que vous, parce que ceux-là vont vous tirer vers le haut. Mais si vous vous entourez de gens apathiques, des gens négatifs, des gens qui eux-mêmes ont des problèmes et sont des problèmes, ces gens ne vous propulseront jamais vers l'excellence. Entourez-vous de gens qui peuvent vous amener à entrer dans votre destinée. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Quand Saül arrive, quand il prend la décision d'aller voir le prophète à Rama, en partant, eh bien, pendant qu'il monte vers la ville, il tombe sur de jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ces jeunes filles, évidemment, Saül et le serviteur vont leur demander où se trouvait la maison du prophète. Regardez, mettons-nous du point de vue de ces jeunes filles. Ce jour-là, on ne nous dit pas combien elles étaient. Marie, Karine, Angèle, Gisèle. Suzanne, allons puiser de l'eau. Voilà, donc des copines, hein. Allons puiser de l'eau. Elles prennent leur vase, leur calmasse. Et puis ça papote. Ça parle, ça jacasse et tout ça. Pouvaient-elles s'imaginer ce jour-là que derrière leur décision, il y avait une main visible? Car quand elles descendent, elles rencontrent qui? Saül. Saül leur pose la question. Où se trouve la maison du prophète? Non seulement elles vont indiquer à Saül et à son serviteur la maison du prophète, c'est-à-dire lui dire comment, dans où il habite, mais aussi comment. Elles vont lui expliquer qu'effectivement, ces jours de fête, le prophète va descendre, il va faire ceci, faites vite. Pendant qu'il va descendre ou qu'il va monter, faites tout pour le rencontrer. Ces filles, inconsciemment, étaient là où elles devaient être pour pouvoir contribuer à faire entrer Saül dans sa destinée. Et puis, ils arrivent, Samuel voit, écoutez, avant, un jour avant, le Seigneur avait averti Samuel, versets 15 à 16 du chapitre 9, il lui avait dit ceci, demain, à cette heure-ci, écoutez bien, demain, 9, 15 à 16, demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. Demain, je t'enverrai qui? Un homme. Regardez, comment Dieu a-t-il envoyé Saül jusqu'à Samuel? Les circonstances. Rien, il n'y a rien, mes amis, qui soit dû au hasard. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, des choses que nous ne comprenons pas, mais l'architecte suprême de l'histoire, celui qui est assis sur le trône, eh bien lui utilise des pions, des instruments pour créer ces événements. Évidemment, avec notre petite intelligence, nous ne pouvons pas comprendre. Évidemment, ces filles, comme tant d'autres protagonistes de cette histoire, eh bien, personne ne pouvait s'imaginer que ce jour-là, il allait contribuer à faire entrer dans sa destinée Saül. Et quand il arrive, le Seigneur lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, les deux vont se rencontrer, monte avec moi vers le haut lieu, vous mangerez avec moi. Il lui explique. Saül est surpris d'entendre des choses comme ça. Lui qui appartenait à un clan, qui n'était pas un clan insignifiant, et puis à une tribu, la tribu de Benjamin, qui était une petite tribu, parce que si vous lisez dans le livre de Juges, vous verrez qu'à un certain moment, cette tribu avait commis l'infamie, et les autres tribus avaient fait une descente, avaient massacré beaucoup de gens de cette tribu. C'est ce qui explique que c'était devenu une petite tribu. C'était lors, durant la période de juges, où le peuple, les tribus se combattaient, les tribus de Dieu se combattaient entre elles. Et là, il va rassurer Saül. Il dit, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas des ânesses perdues, ne place pas ton cœur sur tes ânesses, elles ont été trouvées. Ne t'en fais pas. Donc ça veut dire quoi? Ne t'en fais pas. Les ânesses ont été trouvées, ok? Donc ça veut dire que la perte des ânesses et tous les événements qui vont joncher le parcours de Saül, eh bien, ont été des moyens que le Seigneur a permis pour ramener Saül au prophète et que ce dernier lui donne l'onction royale. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Gloire au Seigneur! Et quand ils arrivent, le lendemain matin, après avoir mangé, bien mangé, Samuel avait même réservé une bonne cuisse, hein, une bonne part, la cuisse avec tout ce qui l'entoure, pour donner ça à Samuel, à Saül plutôt, et à Saül. Ils avaient mangé tout ça. Et le lendemain matin, je terminerai par là, et c'est là que Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant. » Arrête-toi maintenant, je vais te faire entendre la parole de Dieu. Attardons-nous un tout petit peu là. Fais passer ton serviteur devant. Toi et moi, nous devons rester seuls. Parce que maintenant, je vais t'annoncer la parole de Dieu. Regardez, ce serviteur et Saül étaient sortis, partis à deux, n'est-ce pas? Pendant quelques jours, ils ont vécu des expériences ensemble. Ils ont dormi ensemble. Ils ont mangé ensemble. Voyez? C'est ce serviteur-là qui lui avait donné le conseil. Ce conseil important d'aller voir, d'aller consulter Dieu après une recherche vaine des ânes. C'est ce serviteur-là qui, pour aller voir le prophète, va dire à Saül, écoute, moi j'ai un quart de cycle, à peu près 2,856 grammes, c'est rien du tout, hein, d'argent. Pas même l'or, l'argent. Ensuite, ils ont été honorés ensemble lors du festin que le prophète avait organisé. Le serviteur et Saül avaient été placés, honorés, là, placés devant les invités qui étaient à peu près à 30 hommes. Donc, vous voyez que le serviteur en avait profité. Oh, alléluia! Soyez avec des gens, certaines personnes, vous pourriez alors être honoré. Il a été honoré. Ils ont eu à passer de nuit ensemble très rapidement. Mais maintenant, Saül doit se séparer de lui. Il doit se retrouver seul parce que l'homme va bientôt entrer dans sa destinée. Parce que l'homme, eh bien, Dieu l'attend. Oui, il y a un temps où nous marchons ensemble dans l'œuvre de Dieu. Un temps où nous partageons des responsabilités. Un temps où on est actif, ensemble, voyez-vous, dans l'œuvre de Dieu, où on marche côte à côte, gloire à Dieu. Mais il y a aussi un temps où Dieu, par toutes sortes de circonstances, nous conduit à entrer seul dans notre destinée. Je me souviens de notre jeunesse. Nous avions vécu des choses extraordinaires, ici à la borne, hein, une jeunesse dynamique, une jeunesse très active. Je me souviens de nos retraites, de nos cafés chrétiens qu'on organisait ici, d'autres actions d'évangélisation qui ont contribué de manière inéluctable à la croissance aussi bien quantitative que qualitative de cette Église. Nous avons vécu une communion fraternelle extraordinaire. Au point où je me souviens, je n'avais pas voulu partir en Europe parce que ça tombait à un moment où nous avions une retraite ici. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans les années 80 où les gens se battaient pour partir en Europe. Kobe Talibank. Tailler la pierre. Et je me souviens, certains des encadreurs s'étaient étonnés. Hein. Ils disent, vraiment? Je dis, oui. Je préfère rester, être en communion, servir Dieu ensemble. Il y avait une telle dynamique que lorsque le moment est arrivé de partir, enfin cette fois-ci, pour de nombreuses années, j'ai pleuré dans mon cœur, mon épouse est là, de quitter ce lieu qui m'a vu naître, de quitter les amis avec lesquels on avait travaillé ensemble pendant des années. J'aimais tellement mon église qu'à un certain moment, lorsque le pasteur avait instauré les deux cultes, eh bien je faisais les deux cultes parce qu'un seul ne me suffisait pas. Nous étions tout le temps ici, les aînés, ceux qui sont là peuvent se souvenir. Nous étions là. Et puis hop, je me suis retrouvé seul face à ma destinée. Allais-je refuser, rester ensemble et tout ça, ou devais-je partir sans savoir ce qui m'attendait de l'autre côté? Je demandais de balancer une photo. Une photo qui va vous permettre de réaliser un peu ce que je suis en train de dire. Ok, regardez bien cette photo. C'était lors d'une retraite. Vous reconnaissez certains visages? Nous étions là, nous avions une communion formidable. Là derrière, je vois Sakila, je vois Patrick Bopéa, je vois le mari de l'autre qui est là, Didier, je vois Mimi Kayembe, je vois Marcel Bomboko, je vois Kioni qui nous a laissé, qui est entré dans la gloire, je vois Roland, je vois Loufika. Et puis ici, je vois Veilly. Et je vois Judith Zongia, Noëlla, Koshi, Da José qui est décédé, Da Honorine, Lydie et puis l'autre, Gisèle Bondo. Et puis derrière elle, nous avions une telle communion que c'était un plaisir de nous retrouver ensemble, de prier, d'organiser ceci. Et puis un jour, Dieu m'a pris, m'a placé devant ma destinée, je devais partir. Et puis les choses sont restées. Le pasteur Safari n'était pas là, Kabanda aussi, je ne sais pas où s'il intercédait. C'était à une retraite. Et puis ensuite, Veillé est parti en Afrique du Sud. Voyez, aujourd'hui, Lufika, pasteur, où c'est? En Bazangou. Roland, pasteur. Le pasteur Kioni est mort. Le pasteur Bomboko, pasteur. Noéla, aujourd'hui, il est à Paris avec une grande église, à Épinay-sous-Sénart. Maintenant, qui d'entre nous pouvait s'imaginer qu'à un certain moment, il fallait que nous entendions cette voix, « Dis à ton serviteur de passer devant. Toi, reste ici. » Et pourtant, Dieu l'a fait. Et il a créé des concours de circonstances. Même la femme devant moi ne pouvait pas s'imaginer que 30 ans plus tard, non, peut-être 32 ans plus tard, 33 ou 34 ans plus tard, serait l'épouse de l'autre juste derrière, et ensemble ils serviraient le Seigneur. Nous allons terminer par là. Vous voyez, mes amis, nous reviendrons prochainement. Toutes ces circonstances ont été prévues par Dieu. Aucun de ces protagonistes, ni les femmes, ni les deux hommes que Saül rencontrera au tombeau de Rachel, ni les trois hommes qui avaient l'un trois chevreaux, l'autre trois miches de pain, l'autre une outre de vin, qu'il va rencontrer également, ni la troupe des prophètes qui dansaient, précédaient des instruments de musique, personne d'entre eux ne pouvait s'imaginer que ce jour-là, en prenant cette décision de sortir et de prendre cet itinéraire-là, sans l'autre itinéraire, eh bien, ils allaient tout droit à l'accomplissement de la destinée de Saül. Alors, mon frère, ne t'acharne pas sur celui ou sur celle qui est à côté, qui crée un problème. Regarde à ton Dieu. Dieu est bon. Voilà comment, entre cette photo, cette année-là et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a eu beaucoup d'événements. J'ai eu à pleurer pour ne parler que de moi. J'ai eu à pleurer. À un moment, je n'avais plus rien. J'étais en Europe, on vivait par la foi. Et quand on vit par la foi, on ne sait pas quand est-ce que la manne va tomber. Hein. Vous savez, quand vous travaillez à la fin du mois ou le 20, on vous paye. Mais quand vous vivez par la foi, c'est impossible. Tous les pantalons, que des beaux pantalons que j'avais, tout ça, quand je travaillais des missions à gauche, à droite, à un moment, force de marcher à pied, dans l'entrejambe, l'a usé. Je vous l'ai dit. Parce que vous nous voyez aujourd'hui, vous dites non. Au point où quand j'arrivais quelque part, je m'asseyais. Dieu est bon, alléluia. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Mais il savait. J'ai cherché des petits jobs là-bas. Personne ne me prenait. J'ai même failli provoquer la faillite d'une entreprise. Oui, le monsieur m'avait dit, mais depuis que vous venez, je vous ai promis, il n'y a plus rien qui va. Et puis je me suis dit, non, c'est le Seigneur. J'ai dit, non, je suis parti, dit, monsieur, je ne reviens plus. Après, son activité avait décollé. Pourquoi? Parce que j'étais sur une voie où il fallait absolument passer par là. Le brisement. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Merci de nous aider à te rester fidèles. Car tant que nous sommes dans ta main, tant que nous restons attachés à toi, il n'y a rien, Seigneur, qui pourra nous arriver sans que toi tu le permettes. Il n'y aura pas d'événement, Seigneur, imprévu. Tout aura été organisé. Tout aura été prévu. Tout aura été planifié. Tout aura été préparé par toi, le Dieu souverain, pour nous faire entrer dans notre destinée. Merci pour tout. Aide-nous à te rester fidèle, Seigneur, et accepter tout ce qui nous entoure, ces situations difficiles que nous n'arrivons pas, Seigneur, à maîtriser ou difficiles à comprendre. Mais derrière tout cela, il y a ta main qui conduit les choses, et tôt ou tard, nous nous retrouverons sur le chemin qui nous conduit tout droit vers notre destinée. Merci pour tout.